Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Le pontificat de Benoît XVI s'achève plus que 12 jours après la stupeur qui a largement dépassé les frontières de l'Église catholique. Chacun de ses gestes, chaque parole sont observés de près, souvent avec émotion. Benoît XVI doit encore faire un petit nombre d'apparitions qui lui permettront de délivrer d'ultimes messages et de saluer cardinaux, prêtres et fidèles. Mais pendant 5 jours, la semaine prochaine, il n'apparaîtra pas en public. Quant au conclave, il pourrait s'ouvrir avant la mi-mars. Rendu et commentaires dans ce magazine et en fin d'émission, n'oubliez pas nos rendez-vous hebdomadaires avec les livres pour Dieu et le commentaire de l'Évangile. Ce dimanche, Benoît XVI présidera son avant-dernier Angélus à midi avec les fidèles rassemblés place Saint-Pierre. Puis à partir de 18h, il participera avec les membres de la curie romaine aux exercices spirituels de carême, prêchés cette année par le cardinal Gianfranco Ravasi, président du Conseil pontifical de la culture. Les méditations qui se poursuivront jusqu'au 23 au matin auront pour thème « Ars Orandi, Ars Credendi », le visage de Dieu et le visage de l'homme dans la prière psalmique. Le psautier biblique sera donc la source des interventions. Les exercices seront introduits par une réflexion sur les verbes liés à la prière, respirer, penser, lutter, aimer. Ce temps de retraite aura lieu dans la chapelle Redemptoris Mater du Palais apostolique au Vatican. Pendant toute la durée des exercices spirituels, les activités publiques du pape sont suspendues. Le samedi 23, Benoît XVI recevra la visite protocolaire du président italien Giorgio Napolitano. Le pape quittera le Vatican le 28 février à 17h en hélicoptère pour Castel Gandolfo. À 20h, il ne sera plus pape. Dans la matinée, il aura salué les cardinaux présents à Rome dans la salle Clémentine au Vatican, mais aucun acte institutionnel spécifique n'est prévu. Le vrai jour des adieux sera le mercredi 27 février pour la dernière audience générale, place Saint-Pierre, sous la forme d'une liturgie de la parole. La préfecture de la maison pontificale indique que des billets d'entrée sont encore disponibles. 35 000 présences ont déjà été annoncées. Et il n'est pas exclu, je vous le disais en titre, que le conclave puisse commencer plus tôt que prévu avant la mi-mars, car nous sommes dans un cas de figure inédit. Le directeur du bureau de presse du Saint-Siège l'a expliqué aux journalistes, le compte-rendu d'Antonino Gallofaro.
La situation est inédite. Cette fois, la date du début de la vacance du siège apostolique est connue à l'avance. Plus de 2 semaines avant, les cardinaux peuvent donc s'organiser pour venir à Rome plus tôt. S'ils sont tous présents dans la capitale italienne dès le 1er mars, un vote pour un conclave anticipé n'est alors pas à exclure. Toute la semaine, le Vatican a rappelé la constitution du Vatican. 15 à 20 jours sont prévus dès la vacance du siège apostolique jusqu'au début du conclave. Cette période permet en fait aux cardinaux du monde entier de s'organiser pour se rendre à Rome. Une période qui n'a plus de sens s'ils sont déjà arrivés. Le père Lombardi précise par contre que tous les cardinaux ont le droit d'être attendus. L'organisation même du conclave maintenant, à l'avance. Tout est question d'interprétation de la constitution apostolique. Des interprétations dans lesquelles Benoît XVI n'intervient pas. Le pape intervient seulement quand il s'agit de modifier la loi. Le calendrier reste donc toujours à fixer, mais il se précise quand même un peu plus tous les jours. Une fois parti, le 28 février, en fin d'après-midi, Benoît XVI devrait rester à Castel Gandolfo pendant 2 mois. Il résidera dans ses appartements habituels, le temps que son nouveau logement soit prêt, dans un monastère, dans les jardins du Vatican.
Ce samedi, Benoît XVI a reçu le président du Guatemala, Otto Pérez Molina, qui a également rencontré le cardinal Bertone et Mgr Mamberti. Les entretiens ont permis d'évoquer la contribution de l'Église au développement du Guatemala, en particulier dans le domaine de l'éducation, de la promotion des valeurs humaines et spirituelles, et son action sociale et caritative, surtout lors du récent tremblement de terre. Les deux parties se sont félicités de leur bon rapport et se sont dites déterminés à collaborer pour trouver une solution au drame de la pauvreté, du trafic de drogue, du crime organisé et de l'immigration. Enfin, la discussion a porté sur la défense de la vie humaine dès sa conception. Toujours ce samedi matin, le pape a reçu les évêques de la conférence épiscopale de la Lombardie, emmenés par le cardinal Angelo Scola, archevêque de Milan. Et dans la soirée, il s'est entretenu en privé avec le chef du gouvernement italien, Mario Monti. Le cardinal Scola a écrit une lettre qui sera lue ce dimanche 17 décembre au début de la messe dans toutes les églises de l'archidiocèse de Milan à propos de la renonciation du pape. Un geste inattendu et humble, écrit-il, un acte de foi limpide, une décision prise librement devant Dieu pour le seul bien de l'Église. Le cardinal Scola évoque la visite de Benoît XVI à Milan en juin 2012 pour la 7e rencontre mondiale des familles. Il invite à prier pour le collège des cardinaux qui va devoir choisir le nouveau pape. D'autres initiatives de prière ou de réflexion ont été lancées dans le monde pour accompagner ces derniers jours de pontificat et le futur conclave. À Rome, des jeunes catholiques ont organisé une veillée de prière de 60 heures ininterrompues qui s'achèvera dimanche à l'Angélus. Ils prient selon les intentions du pape. Cette initiative spirituelle se déroule sous les auspices d'une paroisse située à 100 mètres de la place Saint-Pierre, en collaboration avec les groupes d'adoration eucharistique et l'association italienne des Papa Boys. Un marathon pour être proche spirituellement de Benoît XVI pour rendre grâce à Dieu pour ce pontificat qui s'achève et pour prier pour le prochain pape dans l'espoir qu'il sache parler aux jeunes. L'annonce de la démission de Benoît XVI a provoqué une vive émotion à travers le monde. Au Liban, qui sera désormais le dernier grand voyage du pontificat du pape Benoît XVI, les différentes communautés religieuses se souviennent d'un Saint-Père qui avait fait l'unanimité en septembre 2012. Écoutez la réaction de Fadi Noun, journaliste spécialiste des questions religieuses au journal libanais francophone L'Orient le Jour. Pour lui, Benoît XVI était un grand théologien qui devrait rester au premier plan, même après son pontificat.
Le patriarche maronite a dit c'est un choc positif parce que c'est la décision d'un homme conscient, lucide, responsable. Au niveau des communautés chrétiennes, on en parle beaucoup aussi au niveau des communautés musulmanes parce que ce qui nous touche, c'est que le pape nous a visités en septembre. On l'a vu de près, on a vu son visage. On a appris à le connaître autrement que de loin. Vous voyez la fatigue. La façon de se déplacer, la voix, on notait que le pape était plus fatigué que d'ordinaire. Le Liban a vécu comme ça un moment de grâce à cause de cette unanimité qui s'est faite autour de lui. C'est comme l'histoire du grain de blé qui tombe en terre. Ça dépend de la terre, ça ne dépend pas seulement du grain. Je regrette un peu son départ parce que j'ai lu le livre de Benoît XVI sur l'enfance de Jésus et je découvre la profondeur de sa pensée théologique. Quelqu'un d'autre va venir avec d'autres livres et d'autres idées et on ne se sera pas assez suffisamment nourri de la profondeur de la pensée théologique de Benoît XVI. Je pense que, comme théologien, il ne devrait pas s'effacer, même dans sa retraite, dans ses dernières années, comme moine.
Le journaliste libanais Fadi Noun, interrogé par Jean-Baptiste Cocagne. On le voit bien, après la stupeur, les catholiques sont partagés entre la tristesse, l'admiration et la confiance. Qu'on le veuille ou non, l'évêque de Rome est un point de repère central dans la vie de l'Église. De plus, Benoît XVI a assumé son ministère à la perfection. Ses textes se caractérisent par une grande profondeur et limpidité. Il s'est efforcé de clarifier le message d'une Église décrédibilisée notamment par le scandale des abus. En Allemagne, le magazine Focus, à paraître lundi, a publié des extraits d'un entretien accordé en août dernier par Benoît XVI au journaliste allemand Peter Zewald, auteur du livre Entretien Lumière du Monde. Souhaitant écrire une nouvelle biographie du pape, Peter Zewald avait demandé à être reçu par Benoît XVI. Aujourd'hui, il affirme que le pape n'a pas démissionné à cause de l'affaire Vatilix. Olivier Bonnel.
Benoît XVI a été affecté par le scandale des fuites de documents confidentiels. Il a fait part aux journalistes allemands de son sentiment d'incompréhension, surtout quant à la psychologie de son ex-majordome Paolo Gabriele. Mais ce n'est pas cela qui l'a poussé à quitter sa charge. Peter Zewald en est convaincu. Ce journaliste a rencontré le pape à plusieurs reprises. Au mois d'août dernier, à Castel Gandolfo, lors d'un entretien d'une heure et demie, Benoît XVI lui a confié qu'il n'était pas tombé dans une sorte de désarroi ou de douleur indescriptible, mais que cette affaire était tout simplement incompréhensible pour lui. Le pape, explique encore le journaliste, voulait que l'indépendance de la justice soit préservée au Vatican. Peter Zewald ajoute qu'il n'avait jamais vu Benoît XVI aussi fatigué, à bout de force, utilisant ses dernières énergies pour terminer son livre sur Jésus. « C'est mon dernier livre », lui a-t-il confié. À la question du journaliste sur ce qu'il y avait encore à attendre de son pontificat, Benoît XVI a alors répondu « Plus grand-chose, je suis un vieil homme, mes forces s'épuisent, je crois aussi que ce que j'ai fait peut suffire.
Il y a quelques jours de la fin de son pontificat, Benoît XVI a renouvelé pour un mandat de 5 ans la commission cardinalis de surveillance de l'IOR, l'Institut pour les œuvres de religion. La nouvelle commission est composée des cardinaux Tarcisio Bertone, secrétaire d'État, Jean-Louis Torrent, président du conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, Odilo Scherer, archevêque de Sao Paulo au Brésil, Telesfor Topo, archevêque de Ranchi en Inde, et Domenico Calcagno, président de l'APSA, qui administre le patrimoine du Vatican. Ce dernier succède au cardinal Attilio Nicola, président de l'autorité d'information financière du Saint-Siège. Vendredi, Benoît XVI avait procédé à une nomination importante. Après une vacance de 9 mois, il a nommé le nouveau président de l'IOR, un industriel et aristocrate allemand, le baron Ernst von Freyberg, membre de l'Ordre de Malte et organisateur des pèlerinages au sanctuaire marial de Lourdes. Terre de Dieu et des hommes, publié aux éditions Artege, c'est le livre pour Dieu que nous vous proposons cette semaine. Son auteur, Olivier Thomas Venard, est dominicain, docteur en théologie. Il réside et enseigne à Jérusalem depuis 10 ans. Son livre se situe entre le journal de voyage, la réflexion politique et la méditation théologique. Un livre qui pourrait être une introduction à la vie de l'âme chrétienne en Terre Sainte aujourd'hui. Olivier Thomas Venard répond aux questions de Catherine Aubin.
Olivier Thomas Venard, dans votre dernier livre, Terre de Dieu et des hommes, vous structurez votre livre en 5 parties. La terre, les hommes, les problèmes, les livres et Dieu. Et votre première partie commence par les senteurs, les lumières. Parlez-nous.
J'ai voulu que ce livre soit une sorte d'introduction à la Terre Sainte. Et la première chose qui m'a frappé, tout simplement, c'est un peu un parcours autobiographique d'approfondissement, ce fut le bruit. Jérusalem, nous avons tous en tête une ville de mystère, une ville de profondeur, et donc nous pourrions nous attendre à une ville de chant et de silence. Et c'est en fait une capitale extrêmement bruyante, les bruits d'une métropole moderne, et puis toutes sortes de bruits, alors propres peut-être à Jérusalem.
D'ailleurs, vous parlez du muezzin qui n'arrête pas.
Le muezzin qui n'arrête pas, qu'on finit d'ailleurs par oublier finalement. Mais également depuis quelques années, même nos amis juifs ultra-orthodoxes de Meach et Harim ont pris l'habitude d'annoncer l'heure du Shabbat avec d'énormes haut-parleurs qui diffusent de la musique hassidique. Donc Jérusalem est une ville très bruyante.
Et alors après, vous nous faites rencontrer l'un des directeurs de l'Institut du Temple, Marcel Dubois, que vous avez bien connu.
Oui.
Et vous nous parlez aussi du dernier voyage de Benoît XVI en Israël.
Oui, la deuxième partie, ce sont donc des rencontres un peu privilégiées, alors certaines des rencontres tout à fait personnelles, comme ce directeur de l'Institut du Temple, donc des juifs, mais aussi des chrétiens sionistes du monde entier qui fédèrent leurs efforts en vue de reconstruire le Temple. Donc c'est plutôt folklorique, mais en même temps un peu inquiétant. Et puis des grands témoins comme Marcel Dubois, dont on sait le rôle qu'il a joué dans le rapprochement entre l'Église et Israël. Et puis cette visite très très risquée et en même temps très réussie par bien des aspects du pape Benoît XVI en Terre Sainte.
Très réussie ? Vous pouvez nous en parler ?
Moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est d'avoir au début du XXIe siècle le pape de l'Église catholique qui vient prêcher la raison. Expliquer aussi bien aux juifs qu'aux musulmans qu'aux chrétiens, dont les esprits et les cœurs s'échauffent volontiers dans cette partie-là du monde, que peut-être le premier acte de culte que l'on peut rendre au bon Dieu, c'est d'utiliser l'intelligence qu'il nous a donnée.
Troisième partie, les problèmes, avec un sous-titre « Juifs et chrétiens en Terre Sainte ».
Oui, la situation en Terre Sainte pour le dialogue judéo-chrétien est exceptionnelle. C'est la première fois pratiquement depuis 20 siècles que les juifs exerce l'autorité politique, exerce la souveraineté, sont une majorité et que les chrétiens sont une toute petite minorité l'autorité
vous
des...
Vous dites vous-même dans votre livre, c'est une situation inversée.
Exactement, c'est une situation inversée qui du coup est passionnante parce que nous avons comme chrétiens à partager ce qui fut l'expérience minoritaire pendant des siècles des juifs.
Dans cette troisième partie, Olivier Thomas Venard, il y a un sous-titre pour un dialogue théologique entre juifs et catholiques en Israël. Qu'est-ce que vous avez voulu dire ?
Ma découverte a été le grand intérêt que nous avons à étudier ensemble. Et j'ai le bonheur de faire partie une semaine par an comme ça d'un programme d'études en commun dans un grand centre d'études juives de Jérusalem-Ouest. Étudier en commun souvent des textes problématiques des trois traditions monothéistes sur des sujets qui fâchent.
C'est ce que vous dites dans votre livre, étudier ensemble, prier en parallèle vers un dialogue proprement théologique.
Voilà, je crois qu'il y a des préalables qui consistent pour chacun à faire un petit peu un inventaire dans sa propre tradition et à reconnaître devant les autres que finalement sous le regard de l'unique créateur et rédempteur nous avons tous des points de lumière, des points de fidélité et aussi quand même des infidélités à reconnaître les uns devant les autres.
Livre pour Dieu, une rubrique hebdomadaire réalisée par sœur Catherine Bain. Et nous retrouvons comme chaque semaine le père Pascal Montavis pour le commentaire de l'évangile de ce 17 février, premier dimanche de carême. Et c'est l'évangile selon saint Luc, chapitre 4, versets 1 à 13. Dans le désert, Jésus est mis à l'épreuve par le démon.
En ce premier dimanche de carême, l'évangile nous parle des tentations de Jésus au désert. Méditer sur ce passage nous permet d'entrer de plein pied dans ce temps liturgique qui nous prépare à célébrer la résurrection de notre Seigneur à Pâques. Relisons cet épisode attentivement. En premier lieu, ces 40 jours de Jésus au désert après son baptême au Jourdain évoquent les 40 ans d'errance des Hébreux après la traversée de la mer Rouge. Le lecteur de la Bible se souvient qu'après la sortie d'Égypte, les Hébreux ont échoué aux portes de la terre promise. Ils ont manqué de confiance en Dieu. Moïse avait en effet envoyé des éclaireurs pour reconnaître le pays de Canaan, et ces derniers revinrent en affirmant que la terre promise était peuplée de géants et qu'il était impossible de s'en emparer. À cause de l'incrédulité en la toute-puissance de Dieu, les Hébreux durent errer 40 ans au désert. Là encore, ils furent plusieurs fois infidèles, comme par exemple aux eaux de Mériba. Durant ces 40 jours au désert, Jésus est aussi mis à l'épreuve. Mais lui demeure fidèle et sort vainqueur de la tentation. Il réussit là où l'homme a échoué. C'est ainsi que Jésus nous sauve. Il prend la place de l'homme pour rétablir le lien avec le Père du ciel. Celui qui demeure en Jésus peut alors, à son tour, entrer en communion avec le Père. Jésus sort vainqueur de la tentation et tous ceux qui mettent leur confiance en lui bénéficient de cette victoire. Les trois tentations de Jésus représentent les trois types de relations pour lesquelles l'homme doit apprendre à se comporter en fils de Dieu. La première tentation est celle de la pierre que le démon propose de changer en pain. Elle évoque les désirs de jouissance que le corps réclame et que l'homme doit apprendre à maîtriser. Elle traite donc de la relation de l'homme vis-à-vis de lui-même. Ce dernier est appelé à dominer et ordonner ses désirs. La seconde tentation est celle du pouvoir. Il s'agit de régner sur tous les royaumes. Elle évoque la relation vis-à-vis du prochain. Plus tard, Jésus dira « Le Fils de l'homme lui-même n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » En résistant à cette tentation, Jésus nous apprend à renoncer à cette tendance humaine d'assujettir l'autre pour en faire un serviteur, un vassal. Enfin, la dernière tentation est celle qui met à l'épreuve Dieu. Le démon invite Jésus à sauter du pinacle du temple, car il est écrit « Il donne pour toi à ses anges l'ordre de te garder ». Cette ultime épreuve renvoie à la relation de l'homme avec Dieu. S'il est juste de demander au Seigneur de venir à notre aide, cela n'a pas de sens de se mettre soi-même en situation dangereuse pour voir ce que Dieu fera. Dieu n'est pas un jeu que l'on pourrait activer à sa guise en se mettant dans telle ou telle situation. Enfin, remarquons comment Jésus sort vainqueur des tentations. Il cite l'Ancien Testament. C'est donc la parole de Dieu qui fournit la réponse qui permet de vaincre les tentations. Le démon s'en rend compte. À son tour, lors de la dernière tentation, il cite la parole de Dieu, essayant d'imiter Jésus. Cela nous montre avant tout que la parole de Dieu peut être falsifiée, mal interprétée. Rappelons que c'est au sein du magistère de l'Église que la Bible est interprétée correctement. En ce temps de carême, ouvrons nos Bibles pour sortir nous aussi vainqueurs au jour de Pâques.
Et c'est sur ce commentaire de l'Évangile que s'achève notre émission. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas que vous pouvez également nous retrouver sur Internet et sur Facebook. Bon dimanche à tous.